Les chemins de la musique. Cette semaine, la conversation musicale, par Christian Rosset. Troisième parcours, en compagnie de Bernard Fournier, musicologue, premier violon de deux quatuors amateurs et auteur d'une somme, en cours de publication chez Fayard, sur l'histoire du quatuor à cordes, de ses origines à nos jours. Beethoven, concerto pour piano numéro 4, Andante, qu'André Boukourechiev, dans son premier livre sur le compositeur, considérait comme un des sommets de l'œuvre, le dialogue entre le piano et l'orchestre prenant des accents d'une telle gravité que les silences deviennent des signes aussi éloquents que les sons. Bernard Fournier, nous avons déjà évoqué la forme quatuor à cordes comme étant la forme presque parfaite pour une conversation musicale. Et nous avons pu déterminer à quel point les instrumentistes peuvent devenir des personnages en quête de dialogue. Et que tout ça se termine dans une sorte de situation un peu absurde, comme le XXe siècle en a donné beaucoup d'état, à savoir de ce dialogue brisé, impossible, et où tout le monde continue à parler. Au fond, ce mimétisme de la parole a été une aubaine pour les compositeurs qui ont pu en tirer toutes les conséquences, y compris un entremêlement inextricable de sonorités qui ne veulent plus rien dire, et donc retrouver finalement le caractère presque originel, abstrait de la musique, ou du moins dénué, sinon de sens, du moins ne pouvant transmettre des idées ou de la pensée au sens commun. Mais il y a aussi donc une autre forme de conversation musicale, qu'est la conversation que le compositeur entretient avec le monde extérieur, que ça soit du domaine d'un monde inaccessible ou que l'on ne peut pas matérialiser par une formule quelconque, ou avec tout simplement sa vie quotidienne, ses amours, sa relation aux autres.
Je pense que cette conversation avec le monde extérieur, c'est en fait une tension, il y a une sorte de tension dialectique intériorisée dont le compositeur va se servir pour créer une œuvre, pour répondre en fait à un problème qui le poigne, qui le pointe avec une forte nécessité. Et on retrouve ici d'ailleurs ce terme de nécessité intérieure que Schoenberg considérait comme étant l'impulsion génératrice pour toutes les œuvres d'art. Et d'ailleurs, cette tension vers le monde extérieur, elle existe non seulement pour les musiciens, mais elle existe pour les créateurs en général. Et il est tout à fait intéressant de voir comment une théorie littéraire a utilisé elle-même les arguments ou les ressources de l'écriture musicale pour expliquer le fonctionnement romanesque. Je viens à mon sujet, en l'occurrence, je pense à Mikhail Bakhtin, un grand formaliste russe, qui a défini le roman de Dostoïevski comme un roman polyphonique. Et effectivement, c'est bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a dans le roman une polémique cachée. C'est-à-dire que l'auteur intériorise une polémique avec le monde extérieur, et c'est ce qui fait la force de son écriture. Alors, il est aussi fécond donc, d'étudier la littérature à partir de ce qu'est l'écriture musicale que peut-être d'en revenir à la musique à partir de théories littéraires comme celle de Bakhtin et donc de la théorie dialogique ou de la polémique cachée comme étant un argument de création. Et effectivement, deux grandes œuvres musicales sont nées aussi de cette tension-là. Alors, polémique cachée mais aussi amour caché. Et je pense en particulier à deux œuvres importantes, il y en a beaucoup d'autres, mais dont on sait qu'elles sont elles ont été fondamentalement conçues par le compositeur comme une tension, une intériorisation de la tension vers une femme aimée. Je pense d'une part à la suite lyrique de Berg, puisque on sait que cette œuvre évoque de manière cryptée la relation d'Alban de Berg avec une femme qu'il aimait, Anna Fuchs. Et on sait, depuis par des recherches récentes, que cette relation, qui n'a d'ailleurs absolument pas été, qui a été vécue entièrement en l'espace d'une demi-heure dans une bibliothèque, puisqu'ils ne se sont revus ensuite que très peu et en présence du mari d'Anna Fuchs, cette relation a été vécue entièrement dans la suite lyrique. Et que toute la dramatisation de l'œuvre, Berg l'a faite dans cette musique. Et non seulement il écrit cette musique parce qu'il était amoureux, mais il est tombé amoureux pour écrire cette musique. C'est ce dialogue, cette conversation impossible, c'est parce qu'il y avait une conversation impossible avec cette femme aimée que l'œuvre, la suite lyrique, est cette œuvre d'une telle force et d'une telle tension. Alors, on ne peut pas analyser ici toutes les raisons qui font que c'est comme ça, mais d'un bout à l'autre de l'œuvre, on trouve la trace de cette histoire et son évolution dramatique vers la catastrophe finale. Mais cette catastrophe finale, elle n'a lieu que dans la musique, et elle est d'autant plus forte et d'autant plus prégnante que précisément l'amour n'a pas été vécu. C'est tout à fait ce qu'on trouve également avec une autre œuvre d'un genre tout à fait différent, qui est Anne die Fernegelibte de Beethoven, puisqu'on sait que Beethoven a eu une passion brûlante pour celle qu'il appelait l'immortelle bien-aimée, donc qui est certainement Antonia Brentano, d'après les travaux de Ménard Solomon. Et cette femme avec laquelle il a rompu pour des raisons complexes sur lesquelles on ne reviendra pas, la rupture à laquelle il a été conduit l'a mené à une situation de véritable désarroi, le menant au bord du suicide. Et l'œuvre qu'il a composée, La bien-aimée lointaine, a été une œuvre de catharsis, mais en même temps un dialogue avec cette bien-aimée lointaine, qui était devenue effectivement lointaine, dans cette œuvre qu'il appelle Anne die Fernegelibte, à La bien-aimée lointaine, et dans laquelle le compositeur dialogue avec la femme aimée et lui demande, même dans le dernier des lieds, puisqu'un ensemble d'un cycle de six lieds, lui demande dans le dernier des lieds de chanter elle-même le soir, au loin, les chants qu'il a écrits pour elle. Donc c'est non seulement une intériorisation de l'amour et une manière de vivre l'amour impossible dans l'œuvre d'art, mais d'y inclure l'image de la femme aimée qui devient personnage de l'œuvre. Donc là, on arrive aussi à une espèce de dialogue avec le monde extérieur qui est tout à fait intéressant et qui en justifie la force. C'est-à-dire que si ces œuvres sont si fortes, c'est parce qu'il y avait justement cette nécessité intérieure qui était en fait de l'autre.
Bernard Fournier, c'est une grande nouveauté, mais la conversation la plus classique avec un extérieur qui n'en est pas un, finalement, c'est la conversation avec Dieu.
Oui, tout à fait. Et là encore, on va peut-être se prendre le cas de Beethoven et de la Missa Solemnis, puisque il s'agit là de bien autre chose que d'une prière, même si c'est aussi une prière, mais d'une véritable interpellation de Dieu. Dans un contexte psychologique complexe où Beethoven a un compte à régler avec le Père. Parce que la Missa Solemnis est une œuvre qui s'adresse à Dieu, mais à Dieu le Père. Le Christ est mis en scène, mais véritablement, on pourrait montrer que tout le dialogue, toute l'écriture de la Missa Solemnis consiste à opposer la sphère de l'humain, qui est représentée d'ailleurs musicalement par un intervalle de quarte, et la sphère du divin, qui est représentée par un intervalle de tierce. Et donc, d'un bout à l'autre, ces deux univers vont se combattre, sachant qu'il y a une tension entre La demande de miséricorde, le miserere, qui est toujours utilisé d'un bout à l'autre de la messe, dans les cinq parties de la messe, avec le même type de motif et d'intervalle. Et puis, en face de ça, le pater omnipotens, le judicare, et tout ce qui est de l'ordre de la puissance, du pouvoir, et par rapport auquel Beethoven a une position extrêmement ambiguë, à la fois fascination, adoration, mais aussi révolte. Et la révolte, elle se traduit en plusieurs points, sentiment d'abandon, et dans la Gnus Dei, véritablement, interpellation de Dieu, dona nobis pacem. Et ce qui est tout à fait extraordinaire dans cette œuvre, qu'on n'a pas assez commenté, cette œuvre immense qui dure presque 2 heures, qui se termine de manière absolument elliptique sur le silence de Dieu. C'est-à-dire que cette œuvre-là, qui est une œuvre magistrale, trop mal comprise, trop peu commentée, est véritablement la mise en scène du rapport de l'homme et de la divinité après l'émergence de la philosophie kantienne. C'est-à-dire que Dieu n'est plus l'être à qui on est soumis, qu'on adore, ou qui est dans une autre dimension que la nôtre. C'est vraiment, on quitte la sphère du monisme, enfin du non-doute, pour être dans une sphère de la confrontation. C'est-à-dire que c'est la première fois que l'homme se met en face de Dieu, un face-à-face avec Dieu. Donc c'est en ce sens que la Missa Solemnis, effectivement, construit un dialogue avec l'extérieur, et un dialogue avec le grand extérieur, le grand tout, Dieu.
Qui aussi a un grand silence. Alors Bernard Fournier, vous avez parlé de la question du roman.
Oui.
On peut peut-être trouver une forme de retour dans la musique, c'est-à-dire dans la façon dont finalement la musique s'empare du romanesque pour produire quelque chose qui serait spécifiquement musical. Ce qui est une drôle de chose parce que ça se passe généralement dans des moments, on peut dire aussi que même chez Berg il y avait un aspect romanesque, où le roman est en train de s'effondrer, de vaciller, avec des grands musiciens du roman, si on peut dire, modernes, comme Proust ou Joyce.
Oui, effectivement, beaucoup d'œuvres ont été tendues vers le romanesque, mais peut-être que l'exemple le plus frappant, c'est celui du premier quatuor de Janáček, Sonate à Kreutzer. Et là, l'exemple est d'autant plus intéressant que c'est un roman, c'est un quatuor qui est tendu vers un roman dont l'histoire tourne autour d'une œuvre musicale, la sonate à Kreutzer de Beethoven, et que cette sonate à Kreutzer est le point d'ancrage d'un conflit ou d'une tension, enfin d'une passion amoureuse destructrice entre une femme mariée et un violoniste séducteur. Et Tolstoï en avait tiré une thèse défavorable à la femme, à l'amour sexuel, dont il condamnait les méfaits, mais d'une manière assez antiféministe. Et Janáček, qui d'ailleurs à l'époque était tombé amoureux d'une toute jeune femme, Camilla Stosova, s'est insurgé violemment contre ces thèses de Tolstoï, et son quatuor se veut, en fait, d'une certaine manière, une œuvre polémique. Justement, on parlait de polémique cachée tout à l'heure. La polémique n'est pas vraiment cachée, même si musicalement, si on n'en connaît pas le prétexte, peut-être qu'on ne le sent pas. Mais il y a une volonté de réhabilitation de la femme, de légitimation de son désir. Et donc, véritablement, c'est une œuvre dans laquelle la musique dialogue avec un roman. Et elle dialogue aussi avec une thèse sociologique, disons, le désir doit-il ou non être réprimé. Et dans le premier mouvement, le premier mouvement de ce quatuor commence par deux mesures qui mettent en scène un motif, qui est le motif du désir, un motif en forme d'arche. Et à ce motif répondent 4 répliques d'un style tout à fait différent, dans un tempo extrêmement rapide, qui donne tout à fait l'impression de l'enfermement de la femme dans son impossibilité à vivre ce désir. C'est un motif qui est dans un intervalle restreint, et on a véritablement que les notes se heurtent à des parois. Elle ne peut aller ni plus haut ni plus bas. Alors, on passe successivement du violoncelle au violon, à l'alto, mais jamais la mélodie ne sort. Elle commence à différentes hauteurs, mais elle est toujours dans le même ambitus, et on sent la femme prisonnière de cette censure du désir. Et l'œuvre va raconter la libération du désir jusqu'à la catastrophe finale pour des raisons sociologiques, mais Jan Hatzsek veut affirmer la victoire de la femme, et il y a dans le dernier mouvement ce qu'il appelle lui un moment de catharsis, où véritablement le désir va renaître et s'exprimer dans une espèce de geste d'immobilisation et de vision du désir comme force éternelle. Donc véritablement Jan Hatzsek à la fois a fait une œuvre musicale tout à fait extraordinaire, mais qui porte une thèse. Alors, maintenant, sur un aspect un peu secondaire, dont on avait parlé autrefois, cette personnification que j'appelle être celle du désir de la femme, qui est représentée par des personnages avec des tempos un petit peu différents, des choses un petit peu différentes, mais toujours ce même enfermement, c'est vraiment une mise en scène de présentation de personnages.
Alors Bernard Fournier, la conversation peut-être la plus propre aux musiciens, ou plutôt la plus partagée, c'est la conversation avec les morts, morts sans doute admirés, quand j'entends par mort les compositeurs qui ont précédé. Et comme vous avez parlé de cette relation, disons, cette forme conversation comme étant en général le règlement, pas forcément résolu, d'un conflit, est-ce qu'on peut considérer que cette conversation, donc très partagée des compositeurs avec des musiciens du passé, témoigne de cet aspect conflictuel et du fait que la musique ne cesse de se renouveler qu'en prenant acte à la fois de son histoire, des conflits qu'elle engendre, ou du moins qui sont là, en attente d'être sinon résolus, du moins pris en charge?
Oui, alors bien sûr, il y a ce dialogue avec l'autre aussi, mais qui est le grand compositeur du passé. Alors ce sont toujours des dialogues avec de grandes figures. Alors est-ce que ce dialogue est conflictuel? Il peut l'être. Mais il est souvent un dialogue, je dirais, d'hommage et d'auto-stimulation. C'est-à-dire que la référence à l'autre pour aller plus loin.
Enfin, pour se mesurer.
Pour se mesurer à lui. Mais, et puis... pour effectivement surmonter des sortes de défis. Je pense par exemple à le quatuor opus 28 de Webern, qui est un hommage à Bach, mais un hommage crypté, que les lettres B, A, C, H, si bémol, la, do, si bécard, voilà, c'est ça. Oui, donc il utilise cette cellule comme base de la série unique sur laquelle il construit l'ensemble du quatuor. Et non seulement le BACH est un élément de la série, mais ce sont les transformations du BACH par renversement, transposition, etc., qui engendrent la série elle-même. Donc l'œuvre n'est qu'une espèce de diction, de répétition infinie, de combinaison infinie du BACH. Donc rarement œuvre a une telle économie. Donc l'ensemble de 8 minutes de ce quatuor repose uniquement sur le BACH. Donc c'est effectivement un hommage parfaitement évident et en même temps un tour de force, puisque les notes, c'est 4 notes simplement qui créent l'ensemble de la structure.
Thank you. problème principal, Bernard Fournier, c'est la relation de compositeurs, par exemple, de la seconde moitié du XXe siècle, donc assez proche de nous, avec ce passé dont on a prétendu faire table rase. Il y a un exemple dont vous êtes beaucoup préoccupé, qui est celui, par exemple, de Boukhorechiev dans sa relation à Beethoven. Oui. Boukhorechiev pouvant passer, par ailleurs, comme quelqu'un qui a particulièrement contribué à renouveler le langage musical, y compris dans son inscription, en inventant des partitions de type cartographique, ou en laissant une grande liberté, disons, d'action à ses musiciens. Cette relation à Beethoven, en plus, se retrouve dans le titre d'une de ses œuvres qui s'appelle « Ombre ». Et on revient peut-être, ça pourrait être le sujet de cette émission, c'est la conversation comme étant une conversation entre des ombres, soi-même étant finalement en mesure d'en devenir une pour le futur. Le compositeur est un être de chair et d'os, et de sang et de nerfs quand il compose, mais il peut le devenir dans son fantasme pour plus tard, une ombre qui dialoguera post-mortem avec Beethoven.
Oui, alors dans le cas de Boukhorechiev, la fonction est particulièrement prégnante, puisque non seulement il a écrit deux livres de musicologie tout à fait remarquable sur ce compositeur, avec en apportant une contribution à la fois originale et forte. Et puis, il a effectivement été fasciné par certaines œuvres de Beethoven qu'il a portées en lui et qu'il a portées dans ses propres œuvres, comme des ombres, vous le disiez, dans Ombres, qui en fait reprend, enfin utilise essentiellement sur une trame extrêmement tendue des citations incrustées, parfois à la limite de l'audible et du reconnaissable, des derniers quatuors de Beethoven. Il y a dans la mise en scène d'Ombre quelque chose qui montre bien la distance entre quelque chose qui a été révolutionnaire en son temps et quelque chose qui est considéré comme tel, mais qui ne vit plus aujourd'hui. Il ne s'agit plus de faire revivre quelque chose du passé, mais de se référer à ce passé comme stimulation pour une expérience moderne. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que de manière générale, les derniers quatuors de Beethoven et les dernières œuvres de Beethoven en général ont été un terrain de stimulation tout à fait étonnant pour les compositeurs du XXe siècle.
C'est une manière de prolonger la conversation qui est finalement ce que Blanchot appellerait l'entretien infini.
C'est tout à fait l'entretien infini parce que finalement on a l'impression que les derniers quatuors de Beethoven ne sont pas terminés. C'est-à-dire que on a d'ailleurs souvent dit que Bartok avait écrit que le premier quatuor de Bartok c'était le 17e de Beethoven ou le 18e si on compte la grande fugue dans les quatuors de Beethoven. Et d'ailleurs c'est d'autant plus vrai qu'il commence exactement en citant des choses. Dans le premier quatuor, il y a une citation du Moussa Zayn de l'opus 135. Donc ça, c'est un peu anecdotique, parce que la citation n'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais la citation fonctionne souvent chez ces compositeurs-là comme tremplin, comme symbole de ce qu'est leur démarche. Disons que l'influence de Beethoven chez ces compositeurs-là, c'est pas tellement une influence du langage, le langage n'a rien à voir, c'est même pas le matériau, parce que même si le matériau est utilisé comme citation, c'est pas du tout le même type de matériau que ces compositeurs vont utiliser, mais c'est bien une manière d'induire une façon de penser la musique, c'est d'induire la modernité et la remise en question permanente. un exemple auquel je tiens beaucoup, parce que c'est sans doute le plus beau quatuor écrit, pour moi, écrit après les années 50, le quatuor de Nono, Fragmente Stille Andiotima, dédié au Quartetto Italiano, qui également fait hommage à ce son du Quartetto Italiano, mais justement, dans une œuvre où le son est complètement déconstruit, défait, où l'œuvre est truffée de silence, il y a presque autant de silence dans les 40 minutes de l'œuvre que de musique à proprement parler, dans ces 52 segments qui sont des méditations sur les textes de Hölderlin. Et ce quatuor est dédié au Quartetto Italiano, mit Innigster Empfindung, avec le sentiment le plus intime, qui est l'expression que l'on trouve sur la dernière variation, la dernière reprise du choral, du chant à la divinité, du mouvement lent de l'opus 132 de Beethoven. Or, non seulement il y a là cette citation, mais ce mit Innigster Empfindung revient encore six fois, qui revient à six reprises dans le quatuor, et chaque fois dans ce 7 heures qui a l'air extrêmement linéaire, ce sont des choses qui se recoupent et qui correspondent toujours au même vers du poème de Hölderlin, Heraus in Luft und Licht, en dehors, dans l'air et la lumière. Et donc, on voit bien à quel point, là encore, se noue un dialogue. C'est pas le seul, parce que l'œuvre de Nono ne converse pas qu'avec l'opus 132 de Beethoven. Il y a aussi des polyphonies anciennes et beaucoup d'autres choses. Et puis Hölderlin, donc c'est vraiment encore un exemple d'œuvre conversation vers l'autre. Mais puisqu'on parlait de l'influence de l'opus 132 de Beethoven, je pensais que c'était intéressant de citer cet aspect-là et de montrer que justement, dans ces six séquences, c'est les seuls moments de l'œuvre où le son du quatuor retrouve quelque chose de la sonorité ancienne.
Et ça me fait penser qu'on pourrait dire que ce qui a le dernier mot dans cette conversation musicale, c'est le silence.
C'est le silence.
Les chemins de la musique. Cette semaine, la conversation musicale, par Christian Rosset. Troisième parcours, en compagnie de Bernard Fournier, musicologue. Réalisation, Philippe Bredin, Françoise Cordet.